Dans le cadre d'un cycle de conférences intitulé « Une église vivante, un monde à aimer », 60 ans après le Concile Vatican II, célébrons l'espérance, organisé par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan, nous vous proposons d'entendre la première partie d'une conférence de l'abbé Xavier Zabaleta sur le thème « Dignité humaine, dignitatis humanae, un trésor à défendre, une mission à poursuivre, que dit le Concile Vatican II à notre monde ?» Nous écoutons l'abbé Xavier Zabaleta.
Bonsoir à tous. Et je vais vous parler sur un des documents du Concile qui est parmi les plus courts. C'est la déclaration sur la liberté religieuse. Et il y a peut-être d'abord un petit quiproquo parce que, comme on le connaît sur le nom latin dignitatis humanae, c'est-à-dire la dignité de l'homme, certaines personnes ont cru que ça allait parler d'autres débats de type moral. Hein. Mais c'est vraiment la déclaration sur la liberté religieuse. C'est un des documents les plus courts, mais un de ceux qui a fait couler le plus d'encre, parce que ça a soulevé beaucoup de questions, beaucoup de problèmes, dont vous sentirez par-ci, par-là, les échos actuels, même si je ne m'y attarderai pas trop. Alors, la conférence sera divisée en trois parties. Dans la première partie, je dirai assez brièvement ce que dit le Concile dans sa déclaration. Ensuite, je vous proposerai un petit parcours historique sur comment cette liberté religieuse a été vécue selon les époques. Et enfin, je vous donnerai quelques pistes de réflexion qui peuvent être utiles sans doute même pour aujourd'hui. Donc, le titre officiel c'est « Dignitatis Humanae, déclaration sur la liberté religieuse, du droit de la personne et des communautés à la liberté sociale et civile en matière religieuse ». Tous les mots sont calibrés, donc il faut bien se rendre compte de quoi on parle. Dire « droit de la personne », donc chacun de nous, « et des communautés », etc. Mais il y a un petit préalable que le Concile rappelle à plusieurs reprises, c'est la question de la vérité. Pourquoi ? Parce qu'on peut se dire, est-ce qu'on peut vivre vraiment une vie d'homme pleinement sans un rapport à ce qui est vrai ? Et qu'est-ce qui est vrai ? Mais la vérité, ça peut être du point de vue sur la nature, sur l'homme et la société, sur Dieu, de quelle vérité parlons-nous ? Mais des trois. La vérité sur la nature, nous en avons besoin pour comprendre comment fonctionne la nature, comment nous pouvons l'utiliser au mieux, et cette nature qui nous a été confiée, que nous devrons léguer, et cette connaissance, cette vérité, c'est en bonne partie l'objet des sciences. La vérité entre les hommes est absolument nécessaire aussi parce que comment penser une société qui soit fondée sur le mensonge ? Et essayez de penser ne serait-ce qu'à vos familles, à vos amis. Si le mensonge devient la loi, qu'est-ce qu'on peut construire ? Quelles relations entre personnes pouvons-nous avoir ? S'il n'y a pas un désir au moins de vérité, je ne dis pas qu'on soit toujours vrai, loin s'en faut, mais au moins devons-nous avoir au fond de nous ce désir. Comment faire confiance, comment aimer notre prochain si le mensonge et la vérité sont interchangeables? Et vous voyez aussi comment il peut y avoir des conséquences sur l'éducation, par exemple. La vérité sur Dieu. Parce que l'homme, oui, nous sommes une pauvre créature, nous sommes roseaux pensants, mais l'homme connaît sa fragilité. Il sait qu'il est là, non pas parce que lui l'a voulu. Si vous connaissez quelqu'un qui a voulu être, vous me le montrerez, n'est-ce pas ? Nous sommes par la volonté de quelqu'un d'autre, nous ne sommes pas là par hasard. Et donc, pourquoi ce détour par la vérité ? Parce que La dignité de la personne humaine exige d'être respectée dans cette recherche de vérité, et cette recherche de vérité doit être aussi celle du domaine religieux. Tout homme, nous dit le Concile, doit chercher la vérité, et l'ayant connue, doit l'embrasser et lui être fidèle. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement d'une notion que je comprends avec ma tête, mais c'est aussi quelque chose qui engage ma vie, qui engage mon comportement, et donc il faut que nous soyons des chercheurs, et l'ayant connu cette vérité, nous l'embrassions et nous lui soyons fidèles. Mais le Concile rappelle que la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même. Et c'est là le souci. C'est-à-dire, cette force de la vérité, elle pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance, dit le Concile. D'où la nécessité d'affirmer que cette liberté religieuse est un droit inséparable de la dignité de l'homme. C'est-à-dire que, pour que notre réponse à cette recherche de vérité soit vraiment digne de l'homme, elle ne peut être que libre. Et donc, le Concile, curieusement d'ailleurs, va diviser son document en deux parties. La première partie, c'est la doctrine générale sur la liberté religieuse, et cette doctrine... Cette doctrine, elle est vraiment générale, ce qui veut dire qu'elle ne concerne pas uniquement les chrétiens que nous sommes. Et vous avez sans doute entendu déjà hier que le Concile a eu la prétention de s'adresser non seulement aux catholiques, mais aussi aux autres chrétiens et à tous les hommes de bonne volonté. Donc il était important que le Concile, en posant les bases de sa réflexion, nous dise non, il y a une doctrine générale sur la liberté religieuse. Alors comment le Concile la définit? Alors il nous dit que personne n'est forcé d'agir contre sa conscience, ni en privé comme en public, seul ou avec d'autres. Voilà, c'est vrai, les trois éléments. Ne pas agir contre sa conscience, en privé comme en public, seul ou avec d'autres. C'est-à-dire que la personne doit être libre de toute contrainte des individus, des groupes sociaux, ou de quelque pouvoir. Et vous voyez déjà pointer des difficultés. Qui peut entraver cette liberté? Ça peut être un pouvoir politique, économique ou autre. Ça peut être un groupe qui va essayer de nous pousser dans un certain sens. Et donc, le Concile rappelle que cette liberté religieuse, elle est fondée sur la dignité de la personne humaine et qu'elle doit être reconnue dans la société et constitue un droit civil. C'est-à-dire que cette dignité de la personne, elle s'impose au droit civil. Elle est antérieure, si vous préférez, au droit civil, de sorte que, quand on réfléchit par exemple au point de vue du droit sur la dignité de la personne, on se rend compte que ça ne peut pas être uniquement parce que nous l'avons décrété en faisant la loi, mais parce que c'est quelque chose qui nous vient d'avant. Donc, l'Église rappelle aussi, c'est très important, toujours dans l'Église, quand vous avez d'un côté un droit, il y a aussi de l'autre un devoir. L'Église rappelle que l'homme a l'obligation morale de chercher la vérité en ce qui concerne la religion. Traduction. Mon ami, Dieu t'a donné une intelligence, il faut que tu t'en serves. Si tu ne t'en sers pas, mais tu ne fais pas honneur à ce don que Dieu t'a fait. Donc, l'homme a une obligation morale de chercher la vérité en ce qui concerne la religion, et il répète ce qui a déjà été dit, ayant connu la vérité, il faut y adhérer et y conformer sa vie. Et vous voyez comment il y a quelque chose, je vous disais, qui dépasse l'idée de la notion. Vous connaissez sans doute la parole de Voltaire, « Plus je regarde le monde, il n'y a pas d'horloge sans horloger. » C'est vrai. Sauf que pour M. Voltaire et beaucoup d'autres, c'est de l'ordre de la notion. De là à ce que cet horloger puisse me dicter comment je dois me comporter, c'est une autre paire de manches. Donc, voilà. Mais laissons voter pour le moment. La redite, en revanche, il y a un truc très rigolo, en tout cas pour moi, ça me fait sourire quand je l'ai relu. Le droit à la liberté religieuse demeure pour tout homme, même s'il ne cherche pas, parce qu'il est feignasse, ou même s'il n'y adhère pas parce qu'il est lâche ou pas courageux. Qu'est-ce que cela veut dire en clair? Mais cela veut dire que nous avons aussi le droit d'évoluer. Et que peut-être à un moment de notre vie, on dit, oh, ça ne m'intéresse pas. Ou bien, ouh, trop compliqué. Non, non. D'accord. Aujourd'hui, tu n'as pas la moyenne. Ok. Mais tu peux évoluer. Et donc, ta liberté, elle demeure, non pas parce que tu t'en servais, mais parce que tu es un homme ou une femme, tu es un être humain. Donc, je répète, le droit à la liberté religieuse demeure pour tout homme, même s'il ne cherche pas. Et c'est intéressant de se rendre compte que cette vérité, elle fait partie de l'enseignement de l'Église et je ne sais pas si vous êtes très familier du code de droit canonique, mais par exemple, retenez la date juste, hein, en 1917, le code de droit canonique disait ceci: personne ne peut être contraint malgré lui à embrasser la foi catholique. Je vous parle de 1917. Le code de droit canonique, comme tous les codes dans le monde, ont évolué. Et en 1983, Jean-Paul II a promulgué le nouveau code de droit canonique qui redit la même chose explicitement un petit peu. Alors je vous le dis, le Concile le cite, mais je l'ai pris ici en entier. Le code de droit canonique rappelle que, je pense déjà dit, tous les hommes sont venus de chercher la vérité en ce qui concerne Dieu et son Église, etc., etc. Mais il n'est jamais permis à personne d'amener quiconque par contrainte à adhérer à la foi catholique contre sa conscience. Vous voyez comment on a retréci. Pourquoi? Parce que le code de droit canonique, contrairement au Concile, s'adresse aux catholiques, justement. S'adresse à vous et moi. Et donc, il nous dit, attention, il ne t'est jamais permis d'amener quiconque par contrainte, et la contrainte, c'est très très large, on y reviendra un peu, à adhérer à la foi catholique contre sa conscience. Et cela est vrai, quelle qu'il soit la personne humaine qui se trouve en face de nous. Et le Concile ajoute que tout cela est voulu par Dieu. Donc, Dieu le veut ainsi, et donc, nous devons faire ainsi. Le Concile nous dit que Dieu rend l'homme participant de la loi divine. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que, cela ne veut pas dire que l'homme décide par lui-même de ce qui est bien ou ce qui n'est pas, mais il peut intérioriser cette loi, la faire sienne, cette loi que Dieu a mise au fond du cœur de l'homme. Et vous vous rappelez sans doute les paroles du prophète Ézéchiel, « Je leur donnerai un seul cœur, je mettrai parmi vous un esprit nouveau, afin qu'ils suivent mes lois, qu'ils observent mes prescriptions et les accomplissent. »
mais en respectant votre liberté.
Et vous vous rappelez, il faut toujours avoir un écho, l'évangile où Jésus nous dit, attends, Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants, sur les justes et les injustes. Donc, voilà. De telle sorte, quand je reprends le concile, que l'homme puisse toujours davantage accéder à la véritable, à la vérité immuable. Et c'est pour ça, puisque Dieu nous met ce désir et cette vérité au fond de nous, chacun de nous a le devoir et du coup le droit. C'est-à-dire que si Dieu nous demande de faire quelque chose, nous en avons le droit. Le droit face à qui ? Face à tous ceux qui voudraient peut-être nous en empêcher. De chercher la vérité afin de se former prudemment un jugement de conscience droit et vrai. Autrement dit, je ne suis pas non plus obligé de croire le premier tweet que je trouve sur Internet, par exemple. C'est par sa conscience que l'homme perçoit, nous sommes peu savants, les injonctions, c'est-à-dire les recommandations de la loi de Dieu. Et l'homme est tenu de suivre sa conscience dans toutes ses activités, même si nous trouvons qu'il se trompe. Il ne doit pas être contraint d'agir Il ne doit pas être contraint d'agir selon sa conscience, mais il ne doit pas être empêché d'agir selon sa conscience, surtout en matière religieuse. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'obliger quelqu'un, même si vous pensez qu'il a bien compris, mais on n'a pas non plus le droit de l'en empêcher. Ça va dans les deux sens. L'acte de foi est vraiment intérieur à chacun de nous. Et alors, le Concile rappelle quelque chose de très important, c'est-à-dire que nous sommes, vous et moi, des êtres sociaux, et donc, comme toute réalité, la foi a aussi un caractère social, communautaire. La religion a une dimension communautaire. Et c'est pourquoi, si on refuse le libre exercice de la religion sur le plan social comme sur le plan personnel, on ne respecte pas la personne humaine et l'ordre voulu par Dieu. Je vous rappelle que ça s'adresse à tous, chrétiens ou pas. Hein? Alors, quelle est la limite de ce droit à vivre ma religion seul ou avec d'autres comme je l'entends? L'ordre public. C'est-à-dire que ce qui va être notre limite de ce droit, c'est l'ordre public doit être sauvegardé, doit être respecté. Et après, on verra qu'est-ce que le Concile entend par ordre public et bien commun. Hein. C'est assez précisé, on y reviendra. Mais donc, je répète, la foi est essentiellement intérieure, mais par la nature sociale de l'homme, la religion a une dimension communautaire. Alors, comment se décline cette liberté ? Alors, le Concile rappelle que les groupes religieux, donc la nature sociale de l'homme rend nécessaires les groupes. Alors, l'ordre public étant sauf, ces groupes peuvent, écoutez bien ce qui suit, se régir selon des normes propres. Honorer d'un culte Dieu, aider les membres du groupe dans la pratique de leur vie religieuse, enseigner leur religion, promouvoir des institutions propres à leurs membres, éditer et publier des documents. Tout cela peut se faire, en vertu de ce droit à la liberté religieuse, avec la limite toujours étant l'ordre public. C'est-à-dire, il faut éviter, rappelle le Concile, toute forme de coercition ou de persuasion malhonnête.
Tu veux avoir ce poste de travail? Adhère à notre clan, par exemple. Et voyez comment ça pointe des choses qu'on voit de fait de nos jours, hein, et dans d'autres endroits, pas uniquement chez nous. Et il ajoute le concile quelque chose de très important, surtout sur des personnes sans ressources culturelles, parce qu'ils ne sont pas instruits, parce qu'ils n'ont pas des armes pour se défendre, ou ceux qui sont démunis financièrement, et parce qu'ils ont besoin d'argent, ils seraient capables de vous dire « je crois en Dieu tous les matins », alors qu'ils ne le pensent pas. Donc, la limite de l'action des groupes, c'est éviter toute forme de coercition ou de persuasion malhonnête, en plus de l'ordre public. Et on verra que, dans ces groupes sociaux, le premier, vous le savez tous, c'est la famille. Et le Concile rappelle que la famille jouit d'un droit vraiment primordial. Primordial, ça veut dire que le plus ancien, le premier qui est à l'origine. Donc, la famille a droit de, deux points. Organiser la vie religieuse de la famille sous la direction des parents. Ça peut paraître une évidence, mais ce serait à rappeler, n'est-ce pas, chère Ernest, à beaucoup de parents qui nous amènent à leur chérubin pour être baptisés. Pardon, je dis des bêtises. La famille a le droit de choisir en toute liberté les écoles ou autres moyens d'éducation. Donc, on ne peut pas obliger les enfants à suivre des cours qui ne correspondent pas à la conviction religieuse des parents. Ce serait bien que quelquefois cela fût rappelé. Ou bien d'imposer une forme d'éducation qui exclut la formation religieuse. On ne peut pas, vous savez, la phrase complète, c'est on ne peut pas obliger les parents dans une forme d'éducation qui exclut la formation religieuse. Peut-être même si nous sommes dans un état laïque, il faudrait peut-être le rappeler. Voilà. Je continue. Qui est le responsable du respect de cette liberté religieuse? Mais la liberté religieuse, faisant partie des droits et devoirs de la personne, fait partie du bien commun qu'il faut assurer. Donc, vous le voyez pointé là. Qui cela concerne? Les citoyens, donc nous, à titre personnel. Les groupes religieux, bien sûr. Les pouvoirs civils, l'Église, et le Concile ajoute, et les autres communautés religieuses. Autrement dit, le consistoire, que ce soit juif ou autre, peuvent aussi réclamer cela, ou protestants, ou musulmans. Quelles sont les limites? On les a déjà dites, j'y reviens pas. L'ordre public et toute forme de action malhonnête, de coercition ou persuasion malhonnête. Alors, qu'est-ce qu'on entend par bien commun? Le Concile le définit très bien. L'ensemble des conditions de vie sociale permettant à l'homme de parvenir plus pleinement et plus aisément à sa propre perfection. Ensemble de conditions de vie sociale. Ensemble. Mais y compris la partie religieuse, bien sûr. Permettant à l'homme de parvenir plus pleinement, plus aisément à sa propre perfection. Mais sa propre perfection, ça va être la vôtre comme la mienne. Donc, je n'ai pas non plus le droit d'imposer ce qui me paraît à moi utile si cela ne fait pas partie de ce bien commun, de ce droit aussi des autres. Les limites de la liberté religieuse, à titre individuel, c'est la liberté des autres. je ne peux pas, au nom de ma liberté religieuse, vous casser les pieds toutes les nuits en faisant sonner la cloche du rhum parce qu'à 3h du matin, j'ai décidé qu'il faut prier. Par exemple, à 3h du matin, je dors. Bien. Mais, autrement dit, plus sérieusement, nos devoirs envers les autres et envers le bien commun. Mais ça, il faut le rappeler à tout le monde. Quelles sont les limites ? Nos devoirs envers les autres et nos devoirs envers le bien commun. Il faut donc se protéger des abus qui pourraient surgir sous prétexte religieux. Je le dis en toutes lettres. Alors, entre parenthèses, moi c'est moi qui ajoute, par exemple, des sectes. En quoi un comportement sectaire n'est pas respectueux de la vie religieuse, de la liberté religieuse ? Parce que c'est une coercition souvent malhonnête. Vous voyez comment on revient. Il faut aussi toujours se rappeler que le bien à sauvegarder d'abord, c'est la paix publique, mais cette paix, elle est fondée non pas sur ma volonté, elle est fondée sur la justice, qui va m'obliger aussi à respecter le droit des autres. Et tout cela, le Concile le dit en général, quelle que soit notre option, notre opinion religieuse. Et cela est valable pour les bouddhistes, comme pour les musulmans, comme pour les juifs et les chrétiens de toutes sortes. Dans la deuxième partie, le Concile va nous parler de la liberté religieuse à la lumière de la révélation. Parce que effectivement, c'est des évêques qui nous parlent, et quand même, la révélation pour nous, ça compte. Le droit à la liberté religieuse a pour fondement la dignité de la personne, et cela nous est, cette dignité nous est enseignée dans la révélation. Alors, pourquoi ce petit détour ? Parce que certains, de ceux qui ne voulaient pas de ce document, on commence à dire, mais la liberté religieuse n'est pas enseignée en Écriture. Ce qui est vrai. Et le Concile le dit. Bien que la révélation n'affirme pas explicitement le droit à l'immunité de toute contrainte extérieure dans le domaine religieux, elle fait connaître, la révélation, dans toute son ampleur, la dignité de la personne humaine. Écoutez la suite qui est très belle. Elle montre en quel respect le Christ a tenu la liberté de l'homme dans l'accomplissement de son devoir de croire à la parole de Dieu. Elle nous enseigne, la révélation, de quel esprit doivent se pénétrer dans leur action les disciples d'un tel maître. Aïe. Ah. Elle montre, la révélation, en quel respect le Christ a tenu la liberté de l'homme dans l'accomplissement de son devoir de croire à la parole de Dieu. On n'a jamais vu dans l'Évangile le Christ taper sur la tête de quelqu'un qui ne l'écoute pas, ou de quelqu'un qui prend une option contraire. C'est ce que ça veut dire. Et du coup, l'Église nous dit, attention, si tu es disciple d'un tel maître, regarde de quel esprit tu dois être imprégné. Et j'ai pris juste un tout petit exemple dans l'évangile de Saint-Luc. Ils entrèrent dans un village, ça c'est pas dans le Concile, c'est moi qui ajoute, hein. Ils entrèrent dans un village de Samaritains pour tout lui préparer. Et on ne le reçut point parce qu'il faisait route vers Jérusalem. Ce que voyant les disciples Jacques et Jean dirent, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer? Se retournant, Jésus les réprimanda. Et ils furent plutôt vers un autre village. Voilà. Pourquoi dans la révélation, l'acte de foi est un acte libre ? L'acte de foi est un acte volontaire parce que l'homme racheté par le Christ, toutes ces citations de l'Écriture, l'homme racheté par le Christ ne peut adhérer que si, attiré par le Père, il met raisonnablement et librement sa foi en Dieu. L'acte de foi est un acte volontaire, puisque l'homme racheté par le Christ ne peut adhérer que si, attiré par le Père, il met raisonnablement et librement sa foi en Dieu. Et on prend comme citation, le plan s'il fait une allusion, « Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père » dans la lettre romaine. » Donc, voilà comment la révélation nous montre l'infinie dignité de l'homme. Comment agit Jésus-Christ? Dieu appelle l'homme à le servir en esprit et en vérité. Cet appel oblige l'homme à y répondre en conscience, mais ne le contraint pas. On doit répondre, mais la réponse n'est pas prééditée, si vous préférez. C'est pourquoi nous sommes responsables parce que nous sommes libres. Si nous ne l'étions pas, nous ne serions pas responsables. Si on me pointe un pistolet pour me dire « dis ceci ou fais cela », on peut dire que ma liberté est quelque peu amoindrie, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que, par exemple, dans l'Évangile, nous avons ces paroles qui paraissent quelquefois dures de Jésus sur les villes autour du lac, « Malheureuse es-tu, Bethsaïde, parce que si les signes qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ça fait longtemps qu'ils se seraient convertis, etc. » Jésus le lamente, mais il ne leur dit pas « La foudre de Dieu va tomber tout de suite. » Jésus attire et invite les hommes. Il suscite la foi. Il confirme sa prédication par les miracles, dit le Concile, mais il n'y a pas de contrainte. Le Concile, dans le numéro 11, il dit textuellement, « Il a rendu témoignage à la vérité, mais il n'a pas voulu imposer par la force à ses contradicteurs. Son royaume ne se défend pas par l'épée, mais il s'établit en écoutant la vérité. » Bon, voilà donc comment l'Évangile et l'Écriture en général nous donnent cette ligne-là. Comment agit l'Église? C'est moi qui ajoute, où devrait-elle agir? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, dit la lettre à Timothée. Avec courage, ils annoncent à tous le dessein de Dieu Sauveur. Ils, c'est les disciples, c'est vous et moi, qui veut que tous les hommes soient sauvés, mais en même temps, vis-à-vis des faibles, même vivant dans l'erreur, leur attitude était faite de respect, manifestant ainsi comment chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Le Concile n'est pas dupe non plus. Et il le dit en toutes lettres. Bien qu'il y eût parfois dans la vie du peuple de Dieu, cheminant à travers les vicissitudes de l'histoire humaine, des manières d'agir moins conformes, c'est dit. Bien plus même contraire à l'esprit évangélique, l'Église a toujours enseigné cependant que personne ne peut être amené par contrainte à la foi. Et vous verrez après dans les petites choses autour que j'ai ajoutées. Liberté de l'Église. Il faut donc que l'Église jouisse de toute liberté d'action dont elle a besoin pour veiller au salut des hommes. Et cette liberté, elle doit être reconnue par les pouvoirs publics. Les fidèles du Christ, comme les autres hommes, jouissent sur le plan civil du droit de ne pas être empêchés de mener leur vie selon leur conscience. Pourquoi? Mais parce que l'Église a reçu une mission de la part de Jésus. L'Église est maîtresse de vérité, puisque Jésus nous dit « Allez et enseignez toutes les nations ». Mais rappelez-vous que l'Église est maîtresse au sens de celle qui doit enseigner, mais non pas de celle qui possède. La vérité ne se possède pas, comme on a une paire de chaussures ou je ne sais quoi. Non. Et là aussi, il faudrait que souvent nous nous en souvenions. Sa fonction de l'Église est d'exprimer et d'enseigner la vérité qu'est le Christ, en même temps que de déclarer et de conformer, en vertu de son autorité, les principes de l'ordre moral découlant de la nature même de l'homme. Traduction, il ne s'agit pas uniquement de ce qui est strictement et littéralement écrit dans l'Évangile, c'est aussi tout ce qui découle de la nature même de l'homme que la parole de Dieu nous fait connaître. Et dans la morale, c'est quand même assez fréquent. Et donc, voilà un peu les deux parties et une conclusion du Concile sur la liberté religieuse. Il est manifeste qu'aujourd'hui, l'homme souhaite pouvoir librement professer la religion, en privé et en public, bien plus, que la liberté religieuse est maintenant proclamée dans la plupart des constitutions, plupart, pas tous, vous le savez bien, comme un droit civil, et les solennellement reconnus par des documents internationaux qui deviennent quelquefois des papiers mouillés, ça c'est moi qui ai ajouté sur le concile. Mais il est des régimes où bien que la liberté du culte religieux soit reconnue dans la Constitution, ça c'est une citation, les pouvoirs publics eux-mêmes s'efforcent de détourner les citoyens de professer la religion et de rendre la vie des communautés religieuses difficile et précaire. C'est quand même dit aussi, mais ça ce sont deux citations du Concile, c'est pas de mon commentaire à moi. Mais c'est important, donc voilà pour la première partie ce que dit le Concile sur la liberté.
Vous venez d'entendre la première partie de Dignité humaine, Dignitatis Humanae, un trésor à défendre, une mission à poursuivre, que dit le Concile Vatican II à notre monde. Elle était présentée par l'abbé Xabier Zabaleta, enregistrée dans le cadre d'un cycle de conférences, Une Église vivante, un monde à aimer, 60 ans après le Concile Vatican II, célébrons l'espérance, organisée par la paroisse de Saint-Pierre de l'Océan.